Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien écoute, cela va bien dans le cadre des circonstances qui sont celles du confinement, avec une grande pensée évidemment pour tous ceux qui sont hospitalisés, tous ceux dont les proches sont touchés par la maladie et tous ceux pour qui le confinement est très difficile à vivre.
Ben oui, écoute, j'ai les mêmes pensées que toi pour toutes ces personnes qui sont au front en particulier. Alors que nous sommes douillettement installés chez nous, alors évidemment avec un petit peu de culpabilité, mais c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire des choses qui permettent de faire un tout petit peu avancer le schmilblick à notre toute petite échelle.
Alors, tout à fait, Eric. Et juste parce que tu m'as fait penser que j'ai oublié, évidemment, une très 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 grande pensée pour tous les personnels soignants et tous les personnels dans les supermarchés et toutes les personnes qui nous permettent de continuer à vivre. Bravo et félicitations à eux.
Voilà, et nous, en éducateurs que nous sommes, en pédagogues que nous sommes, eh bien, nous apportons notre modeste contribution en faisant cette émission qui est destinée, je le rappelle, à éclairer nos auditeurs sur les possibles conséquences économiques que pourrait avoir la crise que nous connaissons actuellement. Parce que, évidemment, ces conséquences risquent d'être extrêmement importantes vu l'ampleur de cette crise.
Tout à fait.
Alors, la semaine dernière, Renaud, nous étions restés sur un constat absolument terrifiant, c'est que la récession est d'une ampleur quasiment jamais vue.
Oui, alors on s'est surtout intéressé à la partie activité économique, donc à la récession. Et effectivement, on risque d'avoir une récession comme nous n'en avons sans doute pas connue. Alors, je n'ai plus les chiffres exacts de 1929, mais il est possible que l'on dépasse même le cadre de 1929, au moins sur cette année. Tout dépend évidemment s'il y a une deuxième période de confinement, tout dépend si comment les consommateurs vont réagir à la suite justement du déconfinement. Mais voilà, donc on a des chiffres assez importants. Et je proposais aujourd'hui d'enchaîner sur la question du chômage, puisque qui dit récession économique dit nécessairement problème d'emploi. Et donc de présenter quelques aspects, en particulier une comparaison États-Unis-France concernant le chômage qui va être très éclairante sur la manière dont nos économies sont structurées.
D'accord. Alors le chômage, évidemment, c'est la toute première conséquence de cette crise, puisque le confinement nous a tous obligés à rentrer à la maison, enfin la plupart d'entre nous. Et bien évidemment, ça entraîne une baisse très sérieuse de la productivité, bien sûr.
Alors de la production, déjà dans un premier temps. Alors, j'ai découvert sur le site de l'INSEE un chiffre que je trouve très, très parlant. Alors, écoute bien, parce qu'il faut le chiffre n'est pas évident à saisir, mais il est très parlant. La production française, en tant que telle, a diminué, l'activité économique française a diminué d'à peu près un tiers, de 33% au mois, entre le début du confinement et aujourd'hui. 33%, mais 33% sur un mois et demi. Donc effectivement, on avait avant la crise une activité normale, on aura après le confinement peut-être le retour à une activité normale. Donc cette baisse de 33% sur un mois et demi entraînerait une diminution globale du PIB de 8%. Mais tout ça pour dire que l'activité ne s'est pas complètement arrêtée. Le système productif français continue à fonctionner à hauteur de 2/3 de ses moyens de production. Alors évidemment, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Par exemple, l'industrie a diminué sa production de 80% sur un mois et demi par rapport à la production habituelle qu'il y a. Et le secteur de la construction même a vu son activité diminuer de plus de 90%.
Ah oui, c'est énorme.
Voilà. Donc ça, c'est pour donner, voilà. Mais tout ça, si l'activité repart normalement après, ça entraînera donc une diminution de la production sur l'ensemble de l'année de 8%.
Alors, mais tout ça pour te dire qu'il y a quand même... On est bien d'accord, Renaud, sur une chose, c'est que tu parlais tout à l'heure de la crise de 1929 qui avait elle-même engendré beaucoup de chômage à l'époque, mais on n'est pas du tout sur les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que le chômage tel qu'il est aujourd'hui, c'est un chômage temporaire, si je puis dire, c'est un chômage partiel, puisqu'on a beaucoup entendu ce terme dans les médias depuis quelques semaines. Donc finalement, est-ce que c'est si grave que ça?
Alors, donc deux choses qui distinguent totalement 1929 d'aujourd'hui concernant le chômage. La première chose, ça reste une interrogation, c'est la durée du chômage. Effectivement, si à la suite du déconfinement, l'activité économique repart comme avant, c'est-à-dire que les consommateurs continuent à aller dans les magasins, les consommateurs profitent de la levée du confinement pour aller faire les courses et les achats qu'ils auraient souhaité faire en mars et avril et qu'ils n'ont pas fait, eh bien, l'activité économique va repartir, alors peut-être pas à 100% de ses capacités, puisque peut-être que certaines entreprises, malheureusement, auront déposé le bilan et auront fermé, mais globalement, si l'activité repart, bah, finalement, on aura eu un pic de chômage à un instant T, mais qui sera purement temporaire. En 1929, je signale quand même que, aussi bien pour les États-Unis que pour des pays comme la France, l'activité ne repart réellement qu'en 1933, c'est-à-dire 4 années après. Donc, pour bien voir qu'il y a différence. Mais ça, on n'en est pas sûr. C'est-à-dire que il n'est pas impossible que le chômage dure plus que la période du confinement, si jamais l'activité ne repart pas exactement comme avant. Mais ça, on aura l'occasion d'en rediscuter.
Oui, puis ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend notamment de la reprise de la consommation, tu l'évoquais la semaine dernière.
Exactement.
Et bien évidemment, ça dépendra aussi de la situation sanitaire. Et ça, c'est le critère numéro un, j'imagine.
Exactement. Donc tout cela reste évidemment extrêmement aléatoire. Enfin, je rappelle toujours qu'un économiste, c'est quelqu'un qui sait toujours expliquer après pourquoi il s'est trompé dans sa prévision avant. Donc bon, c'était un trait d'humour évidemment, mais pas complètement faux. C'est que l'activité, le monde économique est si complexe et sujet à une telle multiplicité de facteurs causaux, à une telle multiplicité de variables, que il est extrêmement difficile de pouvoir parfaitement anticiper ce qui va se passer. Mais bon, en tout cas, a priori, l'impact sur l'emploi devrait être plutôt temporaire. Mais surtout, la deuxième grande différence concernant la France, mais pas concernant les États-Unis, c'est la prise en charge des individus dont l'activité s'est arrêtée.
Bien sûr.
Puisqu'en France, nous sommes en chômage partiel, et je te signale tout de suite que les gens en chômage partiel ne sont pas techniquement comptabilisés dans le chiffre officiel du chômage, dans la fameuse catégorie A de Pôle emploi. Donc en tant que tel, quand on regardera dans quelques mois ou dans quelques années les statistiques du chômage, on n'aura pas une explosion du chômage au mois de mars et avril de cette année, parce que les gens en chômage partiel ne sont pas techniquement au chômage.
Par
Mais
contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que le chômage partiel aujourd'hui peut se muer en chômage définitif un peu plus tard.
exactement, tout dépend de la reprise de l'activité. Tout dépendra fondamentalement de cela. Est-ce que l'activité repart ou pas? Alors évidemment, se posera aussi la question du temps de travail, dont nous aurons aussi l'occasion de reparler. Vous savez que le MEDEF a proposé, enfin en tout cas par certains de ses représentants, a proposé qu'on puisse durablement augmenter le temps de travail des travailleurs pour pouvoir rattraper la production qui n'a pas été réalisée. Alors si effectivement l'augmentation de la production réalisée par des gens qui ont déjà un emploi, ça risque d'être un peu difficile de faire de la place pour ceux qui auront perdu leur emploi durant le confinement. Donc là, le chômage risque de durer. Mais bon, donc voilà, il y a quelques incertitudes et quelques variables. Mais on est avant tout dépendant évidemment de l'évolution du retour de l'activité économique, quoi, pour pouvoir anticiper l'évolution durable du chômage. Mais alors, juste pour faire une comparaison avec les États-Unis, pour que tu vois bien la différence. Alors, aux États-Unis, j'ai été chercher les chiffres. Donc, sais-tu combien il y avait de chômeurs aux États-Unis juste avant le confinement, juste avant que les États prennent des mesures de confinement?
Sachant que les États-Unis est un pays nettement plus grand que la France, je dirais qu'il y avait allez, 4 à 5 millions de chômeurs.
Alors, il y avait officiellement 282 000 chômeurs aux États-Unis,
Ah oui, c'est
tout
extrêmement peu.
simplement parce que, bah oui, bon, ils ont un système très différent du nôtre où tu sais, tu peux ne travailler que quelques heures par-ci, quelques heures par-là, et à partir du moment où tu travailles au moins une heure dans la semaine, tu es retiré des chiffres du chômage. Donc tu peux très bien ne pas être techniquement chômeur, mais être largement en dessous du seuil de pauvreté. Mais quand même pour te donner un ordre d'idée, 282 000 chômeurs juste avant le confinement. Au bout d'une semaine, 6 millions 650 000 chômeurs aux États-Unis.
On parle de gens qui n'ont plus aucune activité engendrant un revenu.
C'est ça, rien. Au bout de 2 semaines, 10 millions de chômeurs aux États-Unis. Et sur cette 3e semaine de confinement, parce qu'ils en sont à la 3e semaine aux États-Unis, on pense qu'on va passer à peu près 14 millions de chômeurs. Donc tout ça pour te dire que l'impact sur le chômage aux États-Unis est infiniment supérieur à l'impact français, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de mesure de chômage partiel aux États-Unis. Donc quand on perd son emploi, on perd réellement son emploi et on se retrouve réellement sans ressources.
D'accord. Alors le mécanisme du chômage partiel, Renaud, il est appliqué en France, mais en quoi consiste-t-il exactement ?
Alors c'est simple, il consiste pour l'État à proposer aux entreprises qui le souhaitent, sous certaines conditions, entre autres une forte baisse de leur activité, de proposer à leurs travailleurs de ne plus travailler, mais sans pour autant les licencier. Et dans ces conditions, les travailleurs en question vont être mis en chômage partiel, c'est-à-dire qu'ils vont toucher en moyenne 84% de leur ancien salaire, et sur ces 84% de l'ancien salaire, il y a environ 70% qui est pris en charge par l'État. C'est-à-dire que cela réduit très très fortement le coût que subissent les entreprises de ne pas avoir licencié leurs travailleurs. Donc c'est un matelas de sécurité, c'est un système d'assurance en quelque sorte collective que l'on se donne, qui permet en cas de récession temporaire de permettre aux entreprises de garder leurs salariés sans avoir à en subir l'intégralité du coût.
D'accord. Alors là, évidemment, on est dans la théorie de l'État-providence, c'est-à-dire c'est l'argent de l'État, donc des contributions publiques, qui permet de financer ce dispositif. On est dans une organisation et dans un dispositif qui est relativement idéologique, puisque s'il n'est pas appliqué aux États-Unis, c'est qu'on ne croit pas en l'État-providence.
Tout à fait.
Ceci étant, en Europe, ce dispositif est largement appliqué dans d'autres États également. Tu me confirmes ça ?
Oui, tout à fait. En D'accord. Allemagne, en Espagne, en Italie. Oui.
D'accord. Alors, j'ai une petite question à te poser, Renaud. Sais-tu dans quelle mesure cette aide financière apportée aux entreprises, qui est un petit peu l'équivalent de l'aide financière apportée en 2009 aux banques lors de la crise des subprimes, est-ce que, il en était beaucoup question dans les médias, est-ce que cette aide financière est assortie d'une condition particulière ?
À ma connaissance, je sais déjà que pour la recevoir en France, il faut pouvoir arguer d'une forte diminution de l'activité. Et je crois aussi que la condition exceptionnelle, qui n'était pas prévue dans les textes normalement, c'est que les entreprises qui recevront ces aides ne pourront plus distribuer cette année de dividendes à leurs actionnaires.
Très bien, alors Renaud, je te propose d'écouter une petite archive sonore qui est très récente, puisque c'est l'extrait d'une émission qui a été diffusée sur France Culture cette semaine.
Oui, cette question a surgi à l'occasion de l'examen à l'Assemblée de l'enveloppe de 110 milliards d'euros pour protéger l'activité économique, le deuxième budget rectificatif, 110 milliards dont 20 pour soutenir les entreprises dites stratégiques. Et c'est à ces 20 milliards qu'on va s'intéresser ce matin. Dans la nuit de vendredi à samedi, un amendement a donc été défendu dans l'hémicycle pour conditionner ce type d'aide. Toute entreprise en bénéficiant devant ainsi établir une stratégie de réduction de ses émissions de CO2 sous peine de sanction. Mais il a été rejeté en séance au profit d'un autre amendement présenté par une députée En Marche. Je vous en donne les grandes lignes. L'État doit veiller à ce que les grandes entreprises aidées intègrent dans leur stratégie la lutte contre le changement climatique. Et dans un an, un rapport gouvernemental détaillera la mise en œuvre de ces objectifs.
Voilà, alors comme tu peux le voir, Renaud, en France du moins, cette mesure n'a pas été appliquée. Il avait été proposé que les entreprises qui bénéficient de l'aide de l'État pour éponger le chômage partiel prennent des engagements sur des objectifs de développement durable et de réduction du réchauffement climatique. Et évidemment, ça a été rejeté, donc pour l'instant, pas d'engagement des entreprises. Est-ce que tu sais par contre si d'autres pays en Europe ont mis en place cette aide conditionnelle ?
Non, Eric.
Alors, 2 pays en Europe ont accordé une aide conditionnelle aux entreprises. Le premier, c'est le Danemark, dont le plan financier s'élève à 100 milliards de couronnes, ce qui représente environ 13 milliards d'euros, et qui a voté ce dispositif avec un amendement qui prévoit que les sociétés qui sont immatriculées dans les paradis fiscaux de la liste de l'Union européenne ne seront pas éligibles aux aides publiques. De même, les sociétés bénéficiaires doivent s'engager à ne verser aucun dividende et n'entreprendre aucun programme de rachat d'actions en 2020 et 2021. Voilà. Et il y a un deuxième pays, qui est l'Autriche, qui a conditionné ses aides au secteur aérien, donc un secteur très précis de l'activité économique. Et la condition est une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'est finalement très peu de pays qui, sur l'ensemble de la planète, ont assorti cette aide financière aux entreprises à des objectifs éthiques ou de réduction du réchauffement climatique.
Si l'on veut être optimiste, et soyons optimistes, on va considérer que dans cette période-là, les gouvernements en question ont dû considérer que l'urgence était à la reprise de l'activité et qu'il ne fallait surtout pas mettre en place des mesures ou des systèmes qui contraindront les entreprises lorsque l'activité repartira, mais que bien évidemment, il y aura dans un second temps un projet de loi qui sera beaucoup plus pensé sur le long terme pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, si on veut être optimiste.
Néanmoins, on a quand même beaucoup entendu parler dans les médias d'un monde meilleur qui pourrait survenir à l'issue de cette crise et en tout cas d'une grande refonte de l'idéologie globale qui préside au fonctionnement de la société.
Cela fera partie des questions que nous traiterons dans d'autres émissions.
Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est mal parti ?
Alors, faire le pari de l'intelligence collective, du progrès social et écologique, c'est toujours un pari extrêmement optimiste et en grande partie utopique. Mais bon, gardons l'esprit ouvert.
Bien. Bon, en tout cas, merci Renaud. De quoi allons-nous parler la semaine prochaine ?
Nous allons voir comment d'une crise sanitaire, on passe à une crise économique via la mise à l'arrêt des grands moteurs de la croissance.
Tout un programme. Écoute, merci pour tous ces éclairages et donc on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir Eric.
Au revoir Renaud. Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.